说。Ce matin, je vais vous parler d'argent. Non, je... Juste au début. On sait que l'argent ne fait pas le bonheur, c'est vrai. Bon, Coluche disait, l'argent ne fait pas le bonheur des pauvres. C'est vrai aussi. On peut quand même admettre que on vit un petit peu mieux quand on a au moins un petit peu d'argent que quand on n'en a pas beaucoup, quand on n'a pas du tout. Alors en ce moment, vous savez, hein, la valeur de l'argent, ça a plutôt tendance à baisser. Bon, c'est pas l'objet de ma prédication. Voilà, on sait que l'argent, ça pèse sur notre vie quotidienne, et c'est pas nouveau. Je pense que beaucoup, je vais faire un petit clin d'œil humoristique, beaucoup ont vu le film, c'est celui-là, La Folie des Grandeurs, avec De Funès en Don Saluste. Je sais pas si vous savez, c'est inspiré d'une pièce de Victor Hugo, hein, qui s'appelle Ruy Blas. Je vous conseille de le relire. Un ministre des Finances du roi d'Espagne, un ministre hypocrite, cupide, vous voyez, il aime bien l'argent. Hein, il a une façon un peu particulière de répartir l'argent des impôts. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, tout ce qui est devant lui, ben, c'est ce qu'il a récupéré pour les impôts, et puis il dit ça c'est pour le roi, puis ça c'est pour moi, puis il y en a beaucoup qui disent c'est pour moi. Il en détourne une bonne partie pour son profit personnel, et puis il est déchu, hein, pour une banale affaire de coucherie, j'allais dire. Bon, c'est pas notre époque, hein, que ça arriverait, que des hommes politiques soient obligés d'abandonner en pleine campagne électorale pour des histoires d'argent ou des histoires de sexe, hein, ça arriverait pas. Et puis De Funès, dans le film, il a cette réplique un peu désobligeante. Alors c'est au ralenti, normalement c'est pas au ralenti, mais c'est pas grave. Si vous avez vu le film, c'est écrit « Qu'est-ce que je vais devenir? Je suis ministre, je ne sais rien faire. » J'y reviendrai un petit peu tout à l'heure. C'est pas complètement sans rapport avec la suite de la prédication. Voilà. Alors plus sérieusement, je vais lire un texte de la Bible dans le Nouveau Testament. C'est une parabole de Jésus qui est dans l'évangile de Luc au chapitre 16, versets 1 à 15. Et ça sera un texte en version français courant. Donc c'est Jésus qui parle à ses disciples et qui dit « Un homme riche avait un gérant et l'on vint lui rapporter que celui-ci gaspillait ses biens. Le maître l'appela et lui dit « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet? Présente-moi les comptes de ta gestion, car tu ne pourras plus administrer mes affaires. » Le gérant se dit en lui-même « Mon maître va me retirer ma charge, que faire ? Je ne suis pas assez fort pour travailler la terre, et j'aurai honte de mendier. Ben, je sais ce que je vais faire, et quand j'aurai perdu ma place, des gens me recevront chez eux. » Il fit alors venir un à un tous ceux qui devaient quelque chose à son maître. Hein, donc il était gérant, il gérait les biens de quelqu'un, et donc certaines personnes devaient de l'argent à son maître. Il dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître ?»« 100 tonneaux d'huile d'olive, » lui répondit-il. Le gérant lui dit, « Voici ton compte, vite assieds-toi et note 50. » Puis il dit à un autre, « Et toi, combien dois-tu ?»« 100 sacs de blé, » répondit-il. Le gérant lui dit, « Voici ton compte, note 80. » Alors c'est des grosses quantités, hein. selon les traductions, il y a des mesures, mais c'est pas des petites sommes qui sont dues. Eh bien, le maître félicita le gérant malhonnête d'avoir agi aussi habilement. En effet, les gens de ce monde, donc c'est Jésus qui parle, hein, en effet, les gens de ce monde sont bien plus habiles dans leur rapport les uns avec les autres que les gens qui appartiennent à la lumière. Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses trompeuses de ce monde, ou les richesses injustes de ce monde, selon les traductions, afin qu'au moment où elles n'existeront plus pour vous, on vous reçoive dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans les petites choses est aussi digne de confiance dans les grandes. Celui qui est malhonnête dans les petites choses est aussi malhonnête dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été digne de confiance dans votre façon d'utiliser les richesses trompeuses de ce monde, qui vous confiera les vraies richesses ? Et si vous n'avez pas été digne de confiance pour gérer ce qui appartient aux autres, qui vous donnera ce qui vous revient ? Aucun serviteur ne peut servir deux maîtres, ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Les pharisiens, qui aimaient l'argent, entendaient toutes ces paroles et se moquaient de Jésus. Et Jésus leur dit, vous êtes de ceux qui se font passer pour justes aux yeux des êtres humains, mais Dieu connaît votre cœur. Car ce que les êtres humains considèrent comme grand est une horreur aux yeux de Dieu. Voilà, c'est la fin du texte que je lirai ce matin. Alors dans les différentes traductions, en général, il y a un titre à la parabole et on trouve plusieurs traductions. Il y a l'intendant, il y a le gérant, il y a le serviteur, et puis il est soit malhonnête, il est infidèle, où il est habile. Alors je ne sais pas si vous avez lu cette parabole, en tout cas moi j'avoue que je l'avais rarement lu parce que ça me semble très très compliqué à comprendre. On a ce serviteur qui est malhonnête et que le maître félicite. Il le renvoie parce qu'il a dilapidé ses biens, il a gaspillé ses biens, mais il le félicite pour sa prudence, pour son habileté. Et puis il y a cette phrase de Jésus, « Faites-vous des amis avec les richesses trompeuses de ce monde. » J'ai trouvé ça très curieux. Et oui, je trouve que c'est un texte qui est compliqué à comprendre, donc moi j'ai eu du mal, j'ai encore du mal à comprendre vraiment ce que ça implique pour nous. Il y a des paraboles qui sont beaucoup plus faciles à comprendre. Juste avant, il y a la parabole du fils prodigue dans le texte. On comprend un peu mieux, enfin beaucoup plus facilement. Et donc, je vais essayer ce matin de vous partager quelques pistes de réflexion. Je ne dis pas que tout à l'heure, on aura compris complètement ce que ça veut dire. Mais ce matin, j'ai voulu essayer de comprendre ce texte. Alors, ce qui est relativement facile à comprendre, c'est qu'on a un serviteur, on a un intendant qui a mal géré les biens de son maître. Il avait la charge des biens, il a détourné de l'argent, il essaye de profiter de la situation. Et il essaye encore de profiter de la situation quand il sait qu'il est renvoyé. Qu'est-ce qu'il va faire ? Donc, il essaye de se faire des amis. Il réduit les dettes. Et le maître trouve ça habile. Moi, je pense que Jésus n'a pas voulu dire qu'il faut être malhonnête. Ça, je pense que c'est à peu près clair. Le principe des paraboles, c'est de nous faire comprendre certaines choses à travers d'histoires qu'il faut surtout pas prendre au premier degré. Il y a plusieurs niveaux de lecture. La parabole du semeur, c'est pas un semeur qui sème des graines dans le chemin. C'est autre chose. Alors, ce que j'ai lu dans plusieurs commentaires, c'est que dans les traditions de l'époque, l'intendant, il avait pas de salaire, il était payé sur des commissions. C'est-à-dire que dans les transactions qu'il faisait, il y avait des commissions, il prenait des commissions. Donc là, on peut penser que il réduit sa propre commission. Bon, donc peut-être que le maître il trouve ça habile. C'est une des explications. Je pense que c'est sûrement un peu trop simple pour que ce qu'il n'y ait que ça dans les paroles de Jésus. Je pense pas que ce soit le plus important. Ce qu'on peut comprendre aussi, je pense que le propriétaire, le grand propriétaire, c'est Dieu. Tout ce qui est sur la terre appartient à Dieu. Et il nous demande de gérer ses biens, de les faire fructifier, et que si on gaspille ce qu'il nous donne, si on dilapide ce qu'il nous donne de façon égoïste pour nous, pour notre propre profit, ben là, ça c'est pas une bonne idée, c'est pas bien. Et ça, Dieu n'aime pas ça. Ce que on peut aussi imaginer quand on lit ce texte, en prenant un petit peu de recul, on peut peut-être comprendre que, on le sait, dans notre vie terrestre, par nature, on est infidèle. Le gérant est aussi qualifié d'infidèle. Tout simplement, on est pécheur. Et qu'est-ce qu'on fait quand on pêche? On gaspille les biens de Dieu, d'une certaine façon. Tout ce qu'il nous donne, on le gère mal. Moi, j'ai à peu près compris ça en lisant ce texte, c'est que si ça s'adresse à nous, c'est que on gère mal ce que Dieu nous donne. On est pécheur, on est infidèle. Et on ne sait pas comment profiter, entre guillemets, de façon juste, de la bonne façon de tout ce qu'il nous donne. Et donc, Dieu a envoyé Jésus pour être responsable à notre place. La loi a fait place à la grâce. Alors, que faire? Que faire? Si on a accepté que Christ vienne dans notre vie, on a la promesse de la vie éternelle. Mais alors, en attendant, donc on gère plus, c'est bon, on s'assoit, on attend que ça se passe. On fait rien? Je pense pas non plus. Et l'intendant, donc de la parabole, il se pose aussi la question, d'où tout à l'heure l'image de Funès, hein, qui dit « qu'est-ce que je vais faire ?» Voilà. C'est un peu moins drôle que la réplique de Funès. Moi, j'ai pensé à une chanson que sans doute vous connaissez. Quand il dit « que faire ? Je ne suis pas assez fort pour travailler la terre et j'aurais honte de mendier. » Il y a une chanson « travailler, c'est trop dur et voler, c'est pas beau. Demander la charité, c'est quelque chose que je peux pas faire. » Et puis, il y a juste après, et ça, je connaissais beaucoup moins, « je dis que je vis sur l'amour et j'espère de vivre vieux. » Alors il dit voler c'est pas beau, l'intendant lui il avait oublié que voler c'est pas beau. Mais sinon il y a ce parallèle, je dirais que l'auteur de la chanson peut-être connaissait le texte. Ça c'est, mais voilà, ça m'a fait penser à cette chanson. Et surtout la dernière strophe. Alors j'espère de vivre vieux, mais surtout je vis sur l'amour, quoi. Ce qui est demandé, je pense, dans la parabole, ben, c'est de donner de l'amour à notre prochain. L'intendant, lui, ce qui lui importe, c'est d'assurer son avenir proche. C'est de pouvoir subsister. Donc il va être habile, il va être intelligent, il va être prévoyant. Et avant de se faire virer, eh ben, il va mettre les gens dans sa poche, comme on dit. Il va réduire la dette des débiteurs de son maître. C'est très habile. Ceux qui ont une dette envers lui, eh ben, ils ne pourront pas lui refuser de l'aide plus tard. Et donc le maître le félicite pour ça, pour son habileté, pour sa prudence. Et Jésus dit, les hommes du monde sont très habiles pour obtenir ce qu'ils veulent. Ceux qui vivent dans ce monde, ceux qui vivent pour ce monde, sont plus avisés dans leurs affaires avec leurs semblables que les enfants de la lumière. Je sais pas vous, mais ça en met un coup quand même, hein. Parce que les enfants de la lumière, je pense que c'est les chrétiens. Ceux qui vivent pour ce monde sont plus avisés dans leurs affaires avec leurs semblables que les enfants de la lumière. S'il dit ça, c'est pas pour rien. Ça veut dire que, ben, il faudrait que ça soit un peu l'inverse. Donc il nous invite, bon, c'est ce que j'ai compris, il nous invite pour nous croyants à être aussi efficaces, entre guillemets, dans nos relations avec les autres. À être plus efficaces, à être aussi efficaces que les gens du monde. Mais non pas pour obtenir des faveurs ou des récompenses terrestres, mais toujours dans un but plus lointain. Et puis, en reflétant l'amour du Christ et en annonçant la bonne nouvelle. Parce qu'il y a cette phrase aussi, qui est compliquée, « Faites-vous des amis avec les richesses injustes. » Je ne sais pas ce que vous en comprenez de cette phrase. Moi, ce que je comprends, c'est que seul Dieu est juste. Donc on peut penser que les richesses injustes, c'est celles qu'on trouve ici, sur la terre. Et finalement, c'est de façon injuste, parce qu'il y a des gens qui n'ont rien, ou qui sont martyrisés, ou etc. Des gens qui vivent dans la misère. Pourquoi on est dans un milieu assez aisé, et d'autres dans un milieu miséreux, pardon? C'est injuste, finalement. Alors, pas pour ceux qui profitent de la richesse, mais pour ceux qui ne l'ont pas. Donc, ce sont des richesses, en tout cas, moi, c'est ce que je comprends, les richesses injustes sont les richesses, c'est tout ce qu'on a sur la terre. Et on a la responsabilité, quand même, de se servir de ces richesses, des circonstances qui vont avec, c'est-à-dire qu'on est tous nés quelque part, hein, comme disait une autre chanson, et on doit gérer ces richesses-là pour faire le bien. Il y a plusieurs textes dans les évangiles. Jésus disait « Vendez vos biens et donnez l'argent aux pauvres. Munissez-vous de bourses qui ne s'usent pas. Amassez-vous des richesses dans les cieux. Amassez-vous des richesses dans les cieux où elles ne disparaîtront jamais. » Les voleurs ne peuvent pas les y atteindre, ni les mythes les détruire, car votre cœur sera toujours là où est votre trésor. Et puis dans l'évangile de Matthieu, quand Jésus dit au jeune homme riche, qui lui demande « qu'est-ce que je peux faire ?» Encore un qui demande « qu'est-ce que je peux faire ?»« Si tu veux être parfait, va vendre tes biens, distribue le produit de ta vente aux pauvres, et tu auras un capital dans le ciel, puis viens. » Et suis-moi. Alors là, c'est pareil, hein, on ne demande pas forcément à la lettre de tout vendre, et il faut, comme toujours, interpréter du mieux qu'on peut la parole. Ce qui est demandé, je pense, c'est, encore une fois, transformer ce qu'on a reçu de Dieu, en des bénédictions éternelles, en appliquant tout simplement le commandement du Christ, aimez-vous les uns les autres. Je pense que c'est un peu la signification du texte de la parabole, c'est avoir la vie éternelle en horizon de vue et agir en conséquence avec les autres, en bon gestionnaire des dons de Dieu. Quand j'ai étudié la parabole, j'ai découvert quelque chose que je ne savais pas, que peut-être certains d'entre vous savent, c'est que dans le Notre Père, la phrase qu'on traduit « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés », la traduction littérale, alors je parle sous le regard du pasteur qui est caché là-haut, qui, si vous vous souvenez, il avait fait une prédication sur les différentes traductions littérales ou pas de la Bible. En tout cas, plus littéralement, le mot offense, c'est le mot de dette. C'est remets-nous nos dettes, comme nous aussi nous l'avons fait pour nos débiteurs. Et la nouvelle version second le retranscrit comme ça. Donc il y a cette notion de dette qu'on retrouve dans la parabole. Je pense que Dieu nous encourage à pardonner, c'est-à-dire à effacer les dettes. Alors on n'a peut-être pas forcément l'autorisation de Dieu pour pardonner les péchés de quelqu'un en son nom, hein. On n'est pas un prêtre dans un confessionnal. On n'est pas les apôtres qui ont reçu, c'est dans Jean 20, les apôtres ont reçu l'Esprit Saint directement de Jésus et il leur a dit, si vous pardonnez au nom de Dieu, il sera pardonné. Je ne pense pas que ce point-là nous concerne directement. Par contre, je pense qu'on a le droit de dire à quelqu'un, Dieu te pardonne. Enfin, Dieu pardonne, en tout cas. Dieu pardonne, il délivre du péché, il délivre de la culpabilité, par sa grâce, par amour. Voilà, on doit pas simplement réduire la dette comme l'a fait l'intendant, on doit supprimer la dette. On doit aller plus loin, on doit donner sans rien attendre en retour, encore une chanson. Apprendre à recevoir sans devoir quelque chose en retour aussi. Je pense que ça en fait partie. Parce que quand c'est un cadeau, il n'y a pas de notion de devoir, il n'y a pas de notion de mérite. Je parlais de la phrase de Jésus, du grand commandement de Jésus, dans Jean 15, « Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce qu'un serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » C'est la grâce de Dieu qui nous rend libres, mais c'est pas pour ça qu'on doit faire n'importe quoi. Il nous appelle à être responsables, à ne pas gaspiller les biens spirituels qu'il nous donne, comme l'a fait l'intendant de la parabole. On doit redistribuer autour de nous. Alors on n'a pas le pouvoir de distribuer des pains ou des poissons, de multiplier des pains ou des poissons, mais on a le pouvoir de multiplier des gestes d'amour. Ça se multiplie sans aucune difficulté. Je vais simplement lire un commentaire sur cette parabole qu'a fait John Darby. D'une manière générale, l'homme est un économe de Dieu. Donc économe au sens intendant, hein, aussi. D'une autre manière, et dans un autre sens, Dieu avait établi Israël pour être son économe, en le plaçant dans sa vigne, en lui donnant ses lois, ses promesses, les alliances, le culte. Mais Israël a gaspillé les biens de Dieu. Quant à l'homme, il s'est comporté en économe entièrement malhonnête. Que fait alors Dieu ? Il vient, et dans sa grâce souveraine, il transforme en semences de fruits célestes ce que l'homme a dégradé sur la terre. Les choses de ce monde étant placées entre les mains de l'homme, il ne doit pas s'en servir pour son bonheur présent, qui exclut totalement Dieu, mais les utiliser en vue du futur. Nous ne devons pas amasser des biens pour le temps présent, mais les utiliser sagement en vue de constituer des trésors pour d'autres temps. Il vaut mieux tout investir en amitié pour plus tard que d'avoir de l'argent aujourd'hui. L'homme est voué à la destruction, C'est pourquoi il est un économe qui n'est pas à sa place. Donc en conclusion, on peut dire que, comme cet intendant, on doit préparer notre avenir, l'avenir de nos proches, non pas en détournant de l'argent, non pas en étant malhonnête, mais en étant prévoyant. Et, je pense, en faisant preuve d'imagination dans notre vie spirituelle, en nous donnant des moyens, du courage, du zèle, le mot était aussi employé, de l'énergie, autant d'énergie que certains exploitent pour servir leur propre intérêt, mais nous pour annoncer l'Évangile, pour refléter la lumière du Christ. Voilà, je vous propose de prier. Seigneur, merci pour ta parole. Même si certains textes sont compliqués à comprendre, comme cette parabole de l'intendant fidèle, nous savons que nous comprendrons un jour, en ton temps, Seigneur. Et je te remercie d'être avec nous tous les jours, de nous guider, de nous aider à gérer tout ce que tu nous donnes, que ce soit matériel ou spirituel. Je te remercie pour les frères et sœurs que nous sommes dans ton Église, Seigneur, et pour les dons que tu donnes à chacun pour que cette Église s'agrandisse. Je te remets en particulier le forum des associations où certains d'entre nous pourront parler de toi, pourront parler de leur foi, de cette Église locale, qu'ils puissent refléter ta lumière, Seigneur, afin que nos proches, nos prochains, nos concitoyens puissent venir à toi. Amen. Je vous propose peut-être en conclusion de chanter le Notre Père de Glorious.
content de nous saluer. Que le Seigneur vous bénisse encore cette semaine, vous conduise, vous guide. Merci Seigneur pour ton amour. Amen.